Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 3 novembre 2020 et nous allons, à partir de la parashat Lech Lecha, essayer de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, notamment au niveau de la nation d'Israël qui revient sur sa terre et qui est actrice des événements universels. Maintenant, comprenons bien un point qui nous paraît fondamental. Tout ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham, puis dans la vie d'Abraham et de son épouse, Sarai devenue Sarah, sont des événements sources. Il s'agit, dans l'histoire de ce couple biblique, de notre père Abraham et de notre mère Sarah, il s'agit donc de vivre ce que va vivre le peuple descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, jusqu'à la fin des temps de l'histoire, jusqu'à l'arrivée du Machiav ben David, en filigrane au cours des millénaires qui vont suivre. Ce sont donc des événements sources. Essayons un peu de comprendre et de donner quelques exemples. D'abord, Abraham, avec Sarai, traverse la terre de Canaan, devenue la terre d'Israël, une terre où il y avait la famine, où il y avait du sable, rien en fait n'était construit, quelques familles cananéennes y habitaient, et cette famine avait contraint Abraham, et sa femme Sarai d'aller quelque part se réfugier en Égypte. Effectivement, dans l'histoire qui va suivre, notamment après la destruction du second temple, la terre d'Israël va être aride, désertique. Pratiquement aucune nation n'a pu s'y établir, à part pendant quelques siècles les Templiers, les féodaux, et quelques années, disons, l'Empire britannique, les 400 ans de l'Empire turc en terre d'Israël ont été en fait de nature très très superficielle. La terre d'Israël, Jérusalem, n'intéressait pas les Ottomans. C'était une province ottomane, comme la Syrie l'était. D'ailleurs, elle faisait partie du territoire syrien. Et donc, Abraham va vivre avec Sarai en Égypte, la galoute d'Israël, la galoute du peuple hébreu parti chez les nations. Et pendant tout ce temps-là, bien entendu, il va essayer de vivre, non pas de s'assimiler, mais en tout cas de vivre en attendant le retour. Et pendant ce temps très long, Israël va être quelque part demandeur. Il va vivre à la merci des nations, comme Abraham va vivre et va accepter les cadeaux de Paro, de Pharaon. Comment peut-il accepter Abraham les cadeaux de Pharaon alors qu'il avait en lui, disent les Chachamim, d'une manière intuitive, toute la Torah, y compris évidemment la Torah orale. Et dans le Talmud, il est bien explicité, il est bien expliqué, les commentaires sont absolument, si vous voulez, très utile, très précis, on refuse les cadeaux, on n'accepte pas les cadeaux. Mais Abraham a accepté. Dans l'ère moderne, la nation d'Israël, recomposée depuis 1948, a été obligée d'accepter les cadeaux, tout cadeau confondu, toute aide internationale confondue, y compris de la Tchécoslovaquie de l'époque, y compris bien entendu des États-Unis d'Amérique, mais aussi d'autres pays, jusqu'à qu'elle ait atteint un certain niveau de développement. Abraham et Sarai sortent d'Égypte et vont à la rencontre de ces quatre rois, de ces cinq rois qui faisaient la bataille. Abraham était accompagné de son serviteur, Éliézer. Cette bataille, disent les maîtres du Sod, les maîtres des secrets, correspond exactement à la bataille finale de Gog et Magog. C'est-à-dire que les quatre rois, les cinq rois qui vont se guerroyer ensemble, mais une guerre implacable, une guerre sans merci, notamment pour prendre Lot, pour emprisonner Lot. Et Abraham, ayant entendu que son neveu Lot était victime de cette guerre et qu'il fallait absolument le délivrer, il va avec Éliézer se battre notamment contre Nimrod, se battre contre les rois qui voulaient empêcher, si vous voulez, Lot d'être lui-même, et il va absolument conquérir, gagner, défaire les ennemis et sauver, bien entendu, grâce à Dieu, Lot. Et à ce moment-là, le roi de Sodom voulait le récompenser, voulait lui donner des cadeaux. Alors il y a évidemment plein de midrashim là-dedans. Et Abraham a refusé les cadeaux. Alors qu'il avait accepté au temps de Paro, cette fois-ci il refuse. Pourquoi ? D'abord parce que cette guerre de Gog et Magog, à la fin des temps de l'histoire, Israël va sortir non seulement vainqueur, mais enrichi. Enrichi d'une manière absolument surnaturelle. Abraham va être très riche et de nombreux midrashim expliquent que cette richesse, il va la distribuer et il va essayer de sauver l'universel repentant. Le but d'Abraham, le but d'Abraham, c'est de faire resplendir le nom de Dieu, un maître de l'histoire, dans ce monde. C'est de réparer la faute d'Adam Arishon et afin, tout simplement, de provoquer l'arrivée du Mashiach Ben David. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, il y a trois temps. Un temps d'avant la guerre de Gog et Magog, où la nation d'Israël va être tributaire des cadeaux de Pharaon. Aujourd'hui, on dirait des Américains, de toutes sortes de cadeaux internationaux. Puis, cette guerre va libérer Israël des forces de Paro, parce que les forces de Paro vont être détruites, en fait, grâce à la guerre contre Amalek. Et Israël va sortir libéré, enrichi et toujours, évidemment, uni à son Dieu. Alors, juste un mot, pourquoi cette guerre ? Et pourquoi Abraham a tant voulu sauver Lot ? Qui était Lot? Alors évidemment, il y a de nombreuses explications de nos Chachamim, mais une des explications importantes et cachée, c'est que Lot avait en lui, dans son intériorité, l'amour de la matière, l'amour de ce monde paradisiaque. Mais dans son extériorité, c'était quand même l'élève de Noah, de Noé, et il a étudié la Torah avec Abraham Avinu. Et donc, les deux formaient quelque part une certaine fraternité, ils étaient frères l'un l'autre. Un étant évidemment attiré par la matière, attiré par le monde des richesses, par le monde du bonheur, et l'autre était attiré par les forces de l'esprit. Abraham vivait dans des tentes. Lot vivait à Sdom. Alors que Lot était capturé pendant cette guerre, Abraham est venu, a donc risqué sa vie, a risqué la vie de son serviteur Eliezer pour sauver Lot. Parce que Lot allait en fait rencontrer, à la fin des temps de l'histoire, Abraham. À la fin des temps de l'histoire, lorsque le Mashiach sera, si vous voulez, réalisé en terre d'Israël, eh bien, les forces de Lot, c'est-à-dire ce non-descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qui fait partie intimement de l'universel, qui fait partie intimement de cette humanité qui est avide de richesses, avide de bonheur, avide de matérialité, mais qui va, grâce au fait qu'il est quelque part accroché aux forces d'Abraham, qu'il est étudié, avec Abraham, eh bien, cette lumière qui est en lui, cette reconnaissance du Dieu maître de l'histoire par Lot, eh bien, va être absolument une lumière pour les nations. Si vous me posez la question, mais comment le Mashiach va essayer de réveiller les nations repentantes, meurtries par cette guerre de Gog et Magog, eh bien, grâce aux forces de Lot, qui vont se réveiller à partir de cette lumière intérieure, cette lumière intérieure qui a été acquise par l'étude de la Torah avec Abraham dans les tentes de Noah, de Noé, et cette force qui était latente chez les nations va se réveiller et va s'éclaircir, je répète, à partir de cette guerre de Gog et Magog. Alors, Abraham va, à 99 ans, faire sa Brit Mila. Une Brit Mila à 99 ans, c'est-à-dire qu'il va avoir en lui le chiffre 8, puisque la Brit Mila, c'est le huitième jour. Ça a été explicitement dit dans la paracha Lech Lecha à la fin, avant que Abraham va faire sa Mila, et il va circoncire son fils Ishmaël à 13 ans. Alors ce qui est très intéressant, vous avez ici des chiffres qui apparaissent. D'abord la Brit Mila, le huitième jour, donc le chiffre 8, et vous avez le chiffre 13, les 13 ans de la circoncision d'Ishmaël. Je vais y revenir tout de suite. Merci.